Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Je suis venu de la Grande Russie et je m'en suis arraché. L'arrachement fait l'exilé.
C'est un météore qui est venu des terres froides pour venir briller dans le monde de l'art et du beau, où il n'a cessé d'être adulé, regardé, poursuivi et aimé.
RTL.
De l'homme attachant et sensible à la diva qu'il pouvait être, cette vie est un monde baroque à l'image du personnage qu'il s'était créé, où le drame, toujours présent, a accompagné son génie et sa passion jusqu'au bout.
Jusqu'à 22h, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Étoile, chorégraphe et maître de ballet à l'Opéra de Paris, un homme au pied d'or qui a révolutionné la danse classique, Rudolf Nureyev. Bonsoir Ariane Dolfus.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste de danse et vous allez nous raconter le destin de ce danseur avant d'évoquer sa vie, son enfance. Il y a cette actualité, Benjamin Millepied qui démissionne de l'Opéra de Paris après seulement une année. Nureyev, en son temps, il avait eu aussi le plus grand mal, je dis aussi, je ne connais pas exactement les raisons de la démission évidemment de Benjamin Millepied, mais il avait eu du mal à diriger cette maison.
Mais tout le monde a du mal à dire. Non, mais c'est très intéressant ce télescopage d'actualité, parce que les problèmes qu'a connu Benjamin Millepied sont exactement les problèmes qu'a connu Rudolf Nureyev. Et tous les deux, ils ont voulu réformer de la même manière. Tous les deux, ils se sont offusqués des mêmes problèmes. Et chacun a essayé d'y répondre à sa manière. Et tous les deux par les agacements aussi. Et, sauf que l'un a duré 15 mois et l'autre 6 ans.
Qu'est-ce qu'ils avaient en commun? Qu'est-ce qu'ils voulaient bouleverser à l'Opéra de Paris, tous les deux? Millepied et Nureyev?
Ah, beaucoup de choses. Ils voulaient mettre fin à la hiérarchie. C'est une hiérarchie qui est assez structurée, qui est assez codée, auquel normalement on doit se fier pour faire les distributions dans les ballets, par exemple. Normalement, un danseur étoile danse un rôle d'étoile. Un quadri ou un coryphée doit attendre de monter dans la hiérarchie pour se faire. Et Nureyev n'avait pas envie d'attendre, Benjamin Millepied non plus n'avait pas envie d'attendre. Il y a un concours interne aussi, Nureyev voulait, Millepied et Nureyev d'ailleurs, voulaient le supprimer tous les deux. Voilà, des choses comme ça.
De rebelles.
Ariane Dolfus, vous avez consacré à Nureyev une biographie, Nureyev l'Insoumis, publiée chez Flammarion il y a quelques années. Vous êtes la traductrice de son autobiographie qui vient tout juste de paraître chez Artaud. Pourquoi ça ne paraît qu'aujourd'hui, il les avait écrites, je crois, en 1962. Pourquoi il a fallu attendre aussi longtemps pour les lire en français?
Eh bien, je ne sais pas.
C'est la colle du soir.
Exactement. Non, mais même, j'ai cherché à savoir si ça avait vraiment été publié, d'autant que c'était un éditeur français au départ qui avait signé ce contrat avec lui. En fait, le projet qui lui avait été présenté ne lui avait pas plu. Et entre-temps, il commençait à faire carrière en Angleterre et il a demandé à un journaliste anglais de remettre en forme. Donc, je pense que c'est plus une question de rencontre. En fait. Mais le fait est que personne n'a jamais en France pris intérêt pour ce texte.
Et pourtant, Nureyev, un destin qui bascule le 16 juin 1961. Que se passe-t-il? Ce jour-là, il devient mondialement célèbre.
Alors ce jour-là, Nureyev devait partir à Londres comme tous ses camarades de la compagnie du Kirov pour continuer sa tournée.
Le Kirov, c'est le grand ballet de Moscou,
de Saint-Pétersbourg. Qui était Leningrad à l'époque. Et le Kirov a repris son nom d'origine et s'appelle donc Mariinsky. Mais à l'époque, en 61, il s'appelait donc toujours le ballet du Kirov.
Donc on est en pleine URSS.
On est en pleine
URSS. Ce qu'on imagine de dureté de ce régime.
Voilà, et tout est raconté d'ailleurs dans cette autobiographie. Et Nureyev sent bien que lorsqu'ils vont à l'aéroport du Bourget, il se passe quelque chose. C'est le premier chapitre d'ailleurs de cette autobiographie. Et qu'il y a quelque chose de pas normal. On donne les tickets, les billets d'avion, on les reprend, on les redonne. C'est pas du tout normal. Et arrivé à l'aéroport, les gens du KGB et la direction du ballet lui disent: écoutez, camarade, vous ne restez pas avec nous, vous devez revenir à Moscou. Et là, il comprend que c'est un drame pour lui, que s'il revient à Moscou, sachant qu'il a été très insoumis, très intrépide, qu'il a commis plusieurs écarts de comportement pendant la tournée, il sent que s'il revient, c'est pour être banni. Et donc, il tente le tout pour le tout et il décide de rester en France.
Et il reste en France. Et on le garde. Comment Nureyev...
C'est un réfugié à l'époque.
Ce grand rebelle, comment est-il arrivé en France? On va raconter son destin quelques années avant, le petit Nureyev. A tout de suite les curieux.
Vous écoutez RTL.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Des étoiles plein les yeux et dans le ciel de la curiosité sur RTL, on vous raconte la vie du danseur Rudolf Nureyev. Sa naissance est déjà exceptionnelle. Ariane Dollfus, il voit le jour en 38 dans des circonstances incroyables. Lesquelles ?
Oui, dans un train, à bord du Transsibérien. Sa mère allait de Oufa à Vladivostok. Et il aime beaucoup, il en parle très joliment, je trouve, dans son texte de cette naissance qu'il considère comme très romantique, alors que la suite ne le sera pas du tout. Et pour lui, il est né dans le mouvement, déjà. Il est né, c'est un éternel voyageur, c'est un apatride. Et c'est un homme qui est dans le mouvement. Et effectivement, naître dans un train et sauter, passer à l'ouest à un aéroport, c'est quand même...
Ses parents sont des artistes ? Ariane Dollfus, non ?
Du tout, ses parents sont tous sauf artistes. Son père est polytrouque, et là aussi, ironie de l'histoire,
polytrouque.
Alors, un polytrouque, c'est un instructeur politique dans l'armée rouge. C'est-à-dire que son père avait pour mission d'instruire les soldats de l'armée rouge des bonnes vertus du communisme. Donc, quand on voit que son fils
sera
l'un des plus grands traîtres à la patrie, on imagine bien la difficulté qu'ils vont avoir après.
Il a plutôt un mauvais souvenir de son enfance, Rudolf Nureyev. Il parle d'un monde d'apocalypse. Est-ce qu'il vivait dans sa famille ?
Ah oui, c'est terrible ce qu'il raconte. Terrible. Il vit dans une pauvreté, dans une noirceur. Il a faim, il a froid, il y a la mort qui rôde parce que c'est la guerre. Et pour lui, il y a qu'une seule chose dont il se souvient, ce sont les patates. Et il y a une scène tout à fait extraordinaire où il raconte comment le seul soir où il y avait encore quelque chose à manger et qui était des pommes de terre, l'eau bouillante est tombée sur lui, l'a ébouillanté, il est arrivé à l'hôpital et c'était un moment de joie extrême pour lui, alors que ça aurait dû être un drame. C'était une joie pas possible parce que pour une fois on s'occupait de lui et pour une fois il avait reçu un petit cadeau de sa mère.
Ouais. C'est cette famille, est-ce qu'il va la retrouver, puisque vous nous avez raconté qu'il était passé à l'ouest en 61, c'est ça si j'ai bien retenu, il les a retrouvés, je sais pas, des années, des décennies plus tard, et si oui, comment ça s'est passé?
Alors, il a tout fait pour essayer de faire venir sa mère, ouais. Et jamais le régime soviétique ne l'a permis. Il y a eu des pétitions, il y a eu des tas de choses. Jamais il n'a pu faire venir sa mère. Et par contre, en 87, l'une des premières choses que décide Gorbatchev, c'est de faire revenir trois personnes en URSS. C'est Nureyev, c'est Rostropovitch et c'est Solzhenitsyn. Et Nureyev revient en 87 très, très, très méfiant. Mais vraiment, se demandant vraiment si c'était du Larousse
si c'est
Couchon,
pas un piège, enfin,
si ouais. C'est pas un piège, absolument, il va revenir avec cornaqué par deux Français et il va pouvoir revoir sa mère qui mourra quelques semaines plus tard.
Dans votre biographie, Ariane Dollfus, qui est passionnante, Nureyev, l'insoumis chez Flammarion, on apprend qu'il fait d'abord du piano et d'ailleurs son père n'était pas vraiment pour. Finalement, il en fait, il se balade toute sa vie avec un clavier. Mais ce don de la danse, quand est-ce qu'il va le découvrir ?
Ah, il le découvre d'une manière... D'abord, il faut savoir gré à ce système soviétique que chez les pionniers auxquels tous les enfants devaient adhérer, il y avait beaucoup d'activités artistiques, dont la danse. Et Nureyev commence par la danse de folklore. C'est très important parce que, du coup, il va commencer la danse classique très très tard. Et ça va être un sacré défi de se dire que quand on commence vraiment la danse classique à 15 ans, normalement on est mal parti. Et lui, au contraire, ce sera un second départ. Et il y a un très joli moment où il raconte comment la danse classique lui tombe dessus littéralement. Et il dit d'ailleurs, je me sentais possédée. C'est le jour où il va voir un spectacle à l'opéra, le 1er janvier 1945. Il n'a pas 7 ans. Et là, c'est un moment de joie, voilà.
Mais il vivait dans quelle région ? Parce qu'il va se retrouver donc au ballet Kirov à Leningrad. Il vient d'où ? Il vivait dans quel Alors, coin de la Russie ? C'est tellement gigantesque là aussi ce pays.
Absolument.
On parlait de la Chine à l'instant.
Absolument. Alors il vivait pas très très loin finalement de la Chine. Enfin, Oufa, c'est au nord du Kazakhstan. Ce sont des petites républiques d'Asie centrale. Ce sont des républiques à majorité musulmane. D'ailleurs, ses parents étaient d'origine musulmane. Ils sont pas trop pratiqués, mais on voit bien à quel point l'organisation familiale était très, très conservatrice et centrée sur le garçon. Et donc, c'est pour ça qu'on voit bien, quand on voit les portraits de Nureyev, à quel point il a les pommettes hautes, très slaves, et puis les yeux légèrement bridés aussi, parce que les Tatars, il est Tatar et Bashkir, et les Tatars, c'était Gengis Khan. C'était les barbares de la Horde d'Or.
Rudolf Nureyev qui va être intégré directement comme soliste au Kirov. Ça, c'est incroyable. Ça fait grincer des dents, j'imagine. Il est très doué.
Il est très doué. Il sait qu'il le sait. Mais il sait qu'il faut persévérer toujours pour... Et rabote. Ça, il disait tout le temps, danseur de l'opéra, travaille.
Il est doué et c'est une tête de mule. C'est parce qu'il est doué que c'est une tête de mule. Il a cette réputation-là, il avait cette réputation-là, Nureyev.
Ah oui, tête de mule, c'est peu de le dire. Et il pouvait même être odieux.
Il refuse d'adhérer au parti.
Il refuse d'adhérer, absolument. Il refuse d'adhérer...
C'est-à-dire qu'il devient une personnalité connue de l'URSS... Et il est rebelle dans ce régime, dans ce système. Il a ce courage d'une certaine façon.
Mais je trouve que tout depuis le début dénote de ça. Le mot courage, il a eu le courage de survivre à toute cette détresse de l'enfance. Il a eu le courage de dire non à son père aussi, hein, parce que son père le battait quand il a appris qu'il revenait d'un cours de danse. Et puis, courage de défier le régime, de défier les autorités soviétiques. Etc.
Effectivement, cette suite, ce courage, ça a été de passer à l'Ouest, de danser en France, de demander l'asile politique, et ensuite...
Vous écoutez RTL. Curiosité est un vilain défaut.
Commençons par ce mystère. En scène, il semblait voler.
RTL.
Nureyev jaillit comme monté sur ressort. Aucun effort n'est apparent. Il révolutionne la danse classique. Nureyev interprète le personnage. Et pour lui, la vie est vouée à la danse.
Jusqu'à 22h.
I work all the time.
Cet artiste hors du commun fut adulé comme une rockstar.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Grand jeté, assemblée, saut de chat. Ce soir, nous pirouettons en compagnie de la journaliste de danse, Ariane Dolfus, qui nous raconte la carrière du génie Rudolf Nureyev. C'est vrai, quand on pense à Nureyev, on lève la tête, on le voit en haut, parce qu'on le voit sautant. Le saut, c'était son fort, son grand talent.
Oui, mais pas seulement. Ce qui était impressionnant chez Nureyev, je vais vous dire tout bêtement, c'était la manière dont il entrait en scène.
Déjà.
Qu'en marchant. On savait que c'était lui, quand bien même il interprétait un rôle. Et deux, il y avait une telle présence. Et il disait toujours d'ailleurs, il faut savoir entrer en scène, il faut savoir en sortir. Il faut savoir commencer un mouvement, il faut savoir le finir.
Il avait quelque chose de félin, Nureyev ?
Oui, complètement. Un félin, c'est Eros hein, aussi, un félin très érotique. Et c'était très moderne aussi à l'époque, hein, parce que ça séduisait tout le monde. Ça séduisait les enfants, ça séduisait les dames, ça séduisait les messieurs, ça séduisait les hétéros, les gays. Du coup, il a été à la fois clivant, parce que les gens, il y avait les pros et les anti. Hein. Faut voir dans la presse française, c'était terrible, terrifiant, hein, ceux qui l'aimaient et ceux qui ne l'aimaient pas.
Pourquoi il chamboulait la façon de danser, la façon de se mouvoir ? Pourquoi il choquait ? Pourquoi est-ce qu'il créait la polémique finalement ?
Et il crée la polémique parce qu'il dansait tellement souvent que parfois il dansait très mal. Il dansait comme un cochon. Donc il y avait ce...
Pour un félin, voilà. C'est dommage. Hein.
Pour un félin, il sautait très bien. Mais oui. Ça, c'est ce qu'on appelle en danse, hein, danser comme un cochonner oui. son travail. Oui. C'est, voilà.
On imagine bien la scène. Mais vous l'avez rencontré ?
Oui.
Nureyev, vous l'avez interviewé ?
Quand j'étais à François, au tout début de ma carrière, j'étais toute jeune. Et,
vous étiez séduite ?
Et un jour, on m'a dit, tu vas interviewer Nureyev. Et ça a été une angoisse absolue. Parce que je savais qu'il pouvait être très méchant. Quoi.
Alors, ça s'est passé comment ?
Eh bien, très bien, heureusement. En fait, c'était sur les plateaux de la SFP à Bry-sur-Marne et il nommait une étoile, une danseuse de l'opéra étoile. Et elle ne le savait pas, puisque c'est le principe, c'est la surprise. Lui le savait, moi on m'avait dit, on m'avait prévenu, on m'avait dit si tu veux, vas-y, et puis tu l'intervieweras sur place. Et là je me suis... Et comme c'était lui qui tournait, qui réalisait la captation de son ballet, je me disais, il va avoir plein de trucs à régler.
Il n'aura jamais le temps.
Et donc, je l'ai vu arriver vers moi comme ça, avec ses grands yeux et ses bottes qui faisaient clap, clap, clap. Et je me suis dit, je vais le rater. Et puis, je me suis dit, non, il faut que j'y aille. Vous connaissez ça aussi. Et je me suis plantée devant lui. Je lui ai dit bonjour. Et bon,
il était très sympa.
Et il était adorable.
Vous avez su pourquoi il avait toujours une casquette et des bottes, Nureyev ?
Oui, parce qu'il avait toujours froid.
Ah oui.
Il avait beau venir du froid, il avait constamment froid. À la fin, il avait un petit peu moins de cheveux aussi. Mais toujours vêtu de...
Si on reprend un peu le fil de la vie, du destin de Nureyev, il arrive en France, il reste en France en 1961. Il ne va pas passer tout de suite à l'Opéra de Paris.
Ah non,
où est-ce qu'il va danser entre temps ?
Il court le monde, et notamment à Londres. Il arrive à Londres parce que Paris ne veut pas de lui. C'est ce qu'on abordait un peu tout à l'heure, je crois. Paris a eu très peur de l'Union soviétique, qui menaçait en disant si vous faites venir Nureyev à l'opéra, plus de tournée, la Comédie française, l'Opéra de Paris, fin des relations culturelles franco-soviétiques. Donc, De Gaulle a dit « Ok, d'accord ». Et on n'a pas réinvité Nureyev avant 1967-68. Les Anglais, eux, ils n'ont pas eu peur de ça. Ils ont tout compris. Ils se sont dit « Tiens, voilà un danseur exceptionnel. Ouais. Voilà, voilà un génie, mais on se le garde ».
Il est aussi passé au Danemark. Alors, peut-être... pour des raisons plus personnelles, il y fait une grande rencontre amoureuse,
oui.
C'est ça ?
Alors, quand il arrive au Danemark, c'était pas parce qu'il avait déjà rencontré Erik Brune, il va le rencontrer là-bas. Et Nureyev avait beaucoup d'admiration pour les... C'est drôle, je m'en suis rendu compte dans son autobiographie. Il admirait beaucoup les vieilles danseuses, le parcours des vieilles ballerines. Et il parle jamais dans son livre des garçons, à l'exception d'Erik Brune.
C'était qui, Erik Brune ?
Erik Brune, c'était le Nureyev du moment. C'était le plus grand danseur du monde à l'époque. On ne parlait que de lui, mais beaucoup moins médiatique que Nureyev. Ils vont tomber amoureux immédiatement tous les deux. Ça va être très, très orageux.
On est dans les années quoi ? Fin des années 60 ?
Juste 62.
Ah, c'est juste après son arrivée, d'accord.
Automne 61, en fait, au bout de 3 mois.
Pourquoi c'est orageux ? Parce qu'il va y avoir un maître et un élève, l'un va déplacer l'autre ?
Exactement, c'est exactement ça. Ils ont 10 ans de différence et soudain, le grand danseur européen du moment va découvrir que son jeune amant va le détrôner. Et ça va être terrible pour lui. Il y a des scènes de jalousie absolument incroyables dans l'autobiographie d'Erik Brune, qui raconte tout ça, qu'il reconnaît, parce qu'au bout d'un moment, après, il y a eu prescription, ils se sont séparés.
Mmh. Et parmi ses partenaires féminines, à ce moment-là, ces danseuses, est-ce qu'il y en a une qui a plus marqué ses premières années à l'Ouest ?
C'était alors il y en a une qui va marquer même sa vie, c'est Margot Fontaine.
Oui.
Dans l'autobiographie, il raconte sa première rencontre avec Margot Fontaine. Margot Fontaine, c'était l'équivalent d'Erik Brune pour la danse, enfin pour les filles, et même encore plus. Margot Fontaine, c'était la Guilhem des années 40, 50, 60.
Et à 19 ans de moins que lui, de moins que Nureyev.
19 ans de plus que Nureyev.
De plus, pardon.
Mais on a saisi. Margot Fontaine avait 42 ans et Nureyev en avait 23.
Et qui choisit l'autre ? C'est elle qui demande à danser avec lui ou c'est lui qui a déjà suffisamment de notoriété, de pouvoir et de caractère pour choisir la star ?
Alors, c'est elle qui a daigné danser avec lui. Parce qu'au début, la première fois qu'elle l'a fait venir à Londres pour qu'il vienne faire un petit gala d'un soir, et lui, il lui demande de danser avec elle. Et elle dit, non, quand même, je suis déjà engagée avec un autre partenaire. Et ensuite, elle comprendra tout l'intérêt de danser avec la grande star du moment. Elle est très, très maligne. Elle se trouvait trop vieille, mais elle a vite compris que elle allait rajeunir avec lui.
On fait des sauts de chat dans l'histoire de Nureyev. On est un petit peu obligé, des entrechats même. Nureyev va se laisser griser par ce succès absolument incroyable qu'il va avoir. Que se passe-t-il, par exemple, ce 12 juillet 1967 à San Francisco ? Une histoire d'arrestation, de drogue.
Ah oui, il y a des images, il y a des filmés qui sont extraordinaires de ça d'ailleurs. 67, c'est la grande époque hippie et ils avaient dansé avec le Royal Ballet, je pense, à San Francisco. Il y avait une fête après et puis tout le monde consommait un peu des trucs pas très licites. Et donc, ils ont été embarqués, la belle Margot Fontaine avec son vison et Nureyev avec sa casquette et son...
Et
sa jaquette en cuir et ils ont été au commissariat
embarqués par la police de
embarqués.
C'est mauvais genre pour des danseurs.
Absolument. Ils ont rien trouvé parce que Nureyev, je sais pas ce qu'il consommait, mais
il aimait choquer Nureyev.
Il adorait ça. Ah oui, il avait des formules. Ça, les danseurs de l'opéra de l'époque s'en souviennent. C'était pas les formules de mille pieds, c'était pire. c'était cul cousu, par exemple. Il disait
Quand on dansait mal,
quand elles étaient un peu pas pas bien comme il fallait, il disait vos queues cousues.
Bon, ben on va se noter. Allez, ça dans notre catalogue d'insultes et de mots désagréables.
On n'est pas cucouzus.
Ah bon, non, pas du tout. C'est pas notre genre, nous.
Allez, dans un instant, Nourieff, danseur qui devient directeur de l'Opéra de Paris.
Vous écoutez RTL.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Rudolf Nureyev fascine, intrigue, énerve parfois aussi. C'est à l'Opéra de Paris qu'on le suit maintenant avec la journaliste de danse Ariane Dollfus. Je rappelle que vous avez publié Nureyev l'insoumis chez Flammarion et traduit l'autobiographie de Nureyev qui est publiée chez Artaud. Il est nommé à la tête de l'Opéra de Paris en 1983. Est-ce que c'est une provocation, un Russe à la tête d'une institution comme l'Opéra de Paris? Et comment c'est perçu par les critiques et par les spécialistes?
Alors, oui, c'est une provocation politique et diplomatique. D'ailleurs, ça fait un clash de la 20 ans plus tard.
Ce que De Gaulle n'avait pas osé, Mitterrand le fait, c'est ça, d'une certaine façon.
Mais absolument, Mitterrand a osé, et ça, c'était assez courageux de sa part, et très malin aussi, parce que c'était une manière de dire, voyez, j'ai une politique culturelle vis-à-vis de l'Union soviétique, c'est, voyez, je ne suis pas aligné à vous, pays communiste, et vis-à-vis de l'Occident, c'était, vous voyez, je ne suis pas le rouge que vous pensez. Oui. Donc ça, c'était très habile. C'était une idée de Lang, de Jack Lang, qui a quand même...
C'était ministre de la Culture à l'époque.
Hein. Voilà. Pierre Mauroy, à l'époque, Premier ministre, n'avait pas beaucoup... était très, très circonspect, et c'est Jack Lang qui a, lors d'une montée à Solutré un week-end de Pentecôte, a réussi à convaincre Mitterrand. C'était très malin comme idée. Hein. Mais
alors cette idée, en vrai, ça va donner quoi, Nourieff, directeur de l'Opéra de Paris? Il va essayer de bouleverser l'institution, c'est ça?
Oui, il va essayer de faire ce qu'a essayé Benjamin Millepied depuis un an. Ils vont avoir exactement les mêmes revendications.
C'est-à-dire ouvrir le répertoire, par exemple?
Ouvrir le répertoire, mais ça, c'est une chose qui
a réussi à le faire.
Oui, mais qui commençait déjà depuis une dizaine d'années. Ça, Cunningham était entré au répertoire de l'opéra, Caroline Carlson était à l'opéra. Ça, c'est pas tellement novateur. En revanche, ce qu'a osé Nureyev, c'est de programmer tout de suite des jeunes danseurs. Alors ça, grève.
C'est-à-dire qu'on les fait monter étoiles très vite, très jeunes, c'est ça? Non,
enfin, oui. Ils deviennent solistes sans être étoiles, quoi, d'une certaine façon.
Voilà.
C'est un peu ça.
Exactement. On les programme dans des rôles de solistes alors qu'ils ne sont que sujets ou coryphées aux grandes dames des étoiles, donc guerre des étoiles.
La guerre des étoiles.
Voilà. Grève, etc.
Je suis ton père.
Et Nureyev n'en a pas démordu, il n'a pas lâché le morceau. Mais ça a été extrêmement critiqué. Si vous lisez la presse de l'époque, il y avait la presse pro et puis la presse anti, et c'était très violent. Et les danseurs aussi étaient très violents avec Nureyev. Et Nureyev était très violent avec les danseurs.
Et il était très exigeant, Nureyev. Écoutez-le parler
de lui. Le mot est fabuleux d'entendre ça dans la bouche de Rudolf Nureyev, qui est la superstar de la danse mondiale. Vous sortez d'un cours de danse, vous êtes donné par quelqu'un, un professeur, avec tous les autres élèves, et vous me dites que vous apprenez beaucoup chaque fois.
Oui, si je n'apprends pas, alors je reste comme je suis hier, et c'est déjà pas bien. Il faut toujours mieux.
Mais alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre à Rudolf Nureyev? Qu'est-ce qu'on vous a dit?
Vous êtes formidable.
On est en 79, c'est Léon Zitrone,
hein.
C'est Léon Zitrone qui l'interview d'ailleurs, c'est assez émouvant d'écouter cette interview. Mais ça, c'est le propre des très grands artistes, de continuer d'apprendre.
Ou
de ne jamais se satisfaire de leur niveau, quoi, c'est ça?
Ah mais absolument.
Parce que c'est l'idée qu'on comprend là.
Et c'est d'ailleurs ce que dit aussi Benjamin Millepied des danseurs de l'opéra, c'est qu'il faut aller toujours de l'avant et qu'il ne faut pas se suffire de ce qu'on a. Et Nureyev jamais ne s'y suffit. Et Nureyev, il faisait la java, il se couchait à 4h du matin, il buvait pas mal. À 10h du matin, tous les jours de l'année, il était au cours. Ça séduisait tous les danseurs.
Et ils dansaient énormément, c'est ça?
Et ils dansaient 250 soirs par an, aux quatre coins de la planète.
Comment ils tenaient physiquement?
C'est une énigme incroyable. C'était un monstre de force, hein, physique, mentale, psychique.
Nourieff, qui n'avait pas que des amis, Maurice Béjart notamment, s'en prend à lui sur le plateau du Trésor de Mourouzi.
Le fantôme de l'opéra existe. On le rencontre pas souvent dans les couloirs. Il a les joues creuses, il a les yeux un peu hagards, il a souvent une casquette sur la tête. Il n'est pas très souvent là. Quand il vient, c'est pour faire une mauvaise action ou un mauvais ballet. Je ne viens pas polémiquer. Je viens demander à un intrus de se retirer. Au revoir, monsieur Nourieff.
On est en 1986. Qu'est-ce qu'il se passe entre ces
Je
deux-là
Je ne viens pas polémiquer.
Béjart et Nourieff. Mmh.
Deux monstres sacrés. Oui, en fait, Nourieff avait invité Béjart à faire une création à l'opéra et Béjart avait envie de nommer étoile deux danseurs très bons d'ailleurs, Éric Vuant et Emmanuel Legris. Et sans même. Alors, au mépris de toutes les règles en vigueur dans la maison, Béjart, au moment des saluts, arrive sur le plateau et dit « Je nomme danseur étoile Manuel Legris et Éric Vuant ». Et Nourieff, qui était dans les coulisses, faisait « Niet, niet, niet » comme ça avec le doigt, en disant « Poisson d'avril », parce qu'on était, c'était le 30 mars ou le 1er avril. Et donc, ça a fait un clash. Et donc, Béjart, le lendemain, tout était totalement préparé avec Mourouzi. Il est allé dans le journal de 13h de la Une, de Mourouzi, et il a fait cette sortie qui est très amusante à regarder parce qu'il a appris son texte par cœur, en fait.
Alors, Béjart qui dit « Nourieff est souvent malade », oui, et pour cause, Nourieff est séropositif.
Mmh. Tout à fait.
Il va le cacher longtemps ?
Jusqu'au bout, il va le cacher. Mmh. Il ne va jamais le dire à personne. Mmh. Il le sait dès 1984. Certes, il va dire à deux personnes de l'opéra, une seule et bonne fois pour toutes. Et petit à petit, les gens vont comprendre. Mmh. Mais non, il n'en parlera jamais.
Et le 8 octobre 1992, c'est sa dernière apparition publique. Ce soir-là, c'est la première de la Bayadère. On va terminer, Ariane Delfus, en racontant la mort de Nourieff, 6 janvier 93. On lui rend quel hommage à l'opéra ?
Ah, un hommage incroyable, parce que son cercueil va rentrer dans le théâtre. C'est bien, je crois, la seule et unique fois que c'est arrivé dans l'histoire.
Porté par des danseurs ?
Porté par six danseurs de l'opéra. Et je me souviens, j'y étais d'ailleurs, hein, il y avait tous les danseurs alignés dans l'escalier. Il y avait sa famille, hein, qu'on reconnaissait très bien d'ailleurs, en bas. Il y avait un petit quatuor de musique de chambre et des gens partout. Et c'était un spectacle, en fait. Et l'opéra, c'était Notre-Dame de Paris, finalement.
Merci beaucoup, Ariane Delfus. Je rappelle que vous publiez Nourieff, l'insoumis, c'est chez Flammarion, et vous avez traduit cette biographie qui vient de sortir, autobiographie de Nourieff, chez Artaud. À très bientôt.
Vous écoutez RTL.